À voix nue, Caroline Brouet.
Laure Adler, journaliste, autrice, féministe.
Troisième épisode, les allées du pouvoir. Bonjour Laure Adler.
Bonjour.
Pour ce troisième temps des voix nues, je vous propose de parler de votre expérience de la politique, mais aussi des postes de responsabilité, de direction que vous avez pu avoir au long de votre carrière. D'abord, la politique, parce qu'en 1989, vous devenez conseillère culture de François Mitterrand, qui est alors président de la République, et c'est un poste que vous avez occupé jusqu'en 1993. Dites-nous comment vous vous êtes retrouvée là.
J'en sais rien. Je sais toujours pas. À l'époque, je travaillais dans une maison d'édition aux côtés d'un homme qui m'a beaucoup appris, qui s'appelait Christian Bourgois et qui dirigeait les presses de la Cité et qui m'avait confié le soin de revisiter et de moderniser le catalogue de Plon. Et je travaillais aux côtés d'un homme, lui aussi, qui m'a beaucoup apporté, qui a été d'ailleurs le premier éditeur de mon premier livre, qui était ma thèse d'histoire, qui s'appelait Jean-Luc Pidoux-Payot. J'étais donc éditrice, je venais de commencer un travail qui me passionnait, de revisitation de ce catalogue, de modernisation et de tentative d'attirer de nouveaux auteurs dans le monde de la politique. Et je travaillais aussi à Canal+, où je m'occupais des livres, à l'intérieur d'une émission que j'adorais, qui s'appelait « Demain » et qui était dirigée par Michel Denisot. Et j'étais mère de famille, de deux petites filles et d'un fils plus âgé. Et donc, ma vie était très remplie, elle était très joyeuse, elle était turbulente, elle était excitante. Et un samedi matin, le téléphone a sonné et un monsieur à la voix grave m'a dit « Le président de la République veut vous parler ». J'ai cru que c'était mon fils
qui
faisait des blagues. Le monsieur a rappelé une autre fois. J'ai re-raccroché en disant « Écoute Guillaume, c'est vraiment pas drôle ». Il savait que j'avais le cœur à gauche, que j'avais voté pour Mitterrand, que j'aimais beaucoup Mitterrand, mais que par définition, comme tous les Français, je l'avais jamais rencontré. Et puis la troisième fois, c'est son secrétaire général, à l'époque Jean-Louis Bianco, qui lui m'a appelé et m'a dit « c'est pas du tout une blague, le président veut vous voir ». Dans l'heure, samedi matin, il était midi. Alors j'ai dit « c'est pas possible, j'ai mes parents, qui étaient anti-mitterrandiens comme de base, qui viennent déjeuner, qui viennent de Clermont-Ferrand ». Alors il m'a dit « écoutez, début d'après-midi, donc j'ai fait le repas à mes parents sans rien dire ». Tout en étant très intriguée, j'ai pris un taxi et je suis arrivée dans la cour de l'Élysée un samedi à 15h. Élysée vide, Jean-Louis Bianco m'a fait la conversation pendant 2h30. C'est long, 2h30 entre deux personnes qui ne se connaissent pas, parce que lui non plus ne savait pas pourquoi j'étais là. Et donc au bout de 2h30, le téléphone blanc. Et j'ai vu qu'il y avait un téléphone blanc sur le bureau du secrétaire général. Et il s'est mis à sonner. Et Jean-Louis Bianco m'a dit avec un air de délivrance, « Le président arrive. » Et il est arrivé, le président, tout guiré en disant, « Excusez-moi, j'avais oublié le temps. Vraiment, je suis désolé de vous avoir fait attendre. Mais il y avait un match de rugby, j'ai pas vu le temps passer. » C'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et ensuite, il m'a fait rentrer dans son bureau. Et il m'a dit, voilà, je voudrais que vous fassiez partie d'un organisme de régulation de l'audiovisuel. Ça s'appelait le CSA à l'époque, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Maintenant, ça s'appelle l'ARCOM. Et j'ai dit, mais moi, ça m'intéresse pas. Ça doit être très, très ennuyeux d'étudier des dossiers toute la journée, de discuter législation. Moi, j'ai une vie beaucoup plus intéressante que celle-là, un peu prétentieuse, j'ai été. Et sur son bureau, il y avait le téléphone blanc, mais il y avait aussi des tas de dossiers, des parafleurs, vert foncé. Et il m'a dit, vous voyez ça? Je dis oui. Il me dit, ça, c'est des gens qui me demandent tous les jours des postes. Et moi, qui n'ai aucun sens de la répartie, là, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, mais moi, je ne vous ai rien demandé. Alors, ça l'a fait beaucoup rigoler. Et il m'a dit, réfléchissez, je vous donne 24 heures. Et au bout de 24 heures, Jean-Louis Bianco m'a appelé et j'ai dit, écoutez, ça veut dire que je quitte tout, si j'ai bien compris. Il m'a dit, oui, tout. Alors il m'a dit, bah, c'est pas possible. Donc, exit. Et ça m'a pas beaucoup affecté puisque par définition, j'avais rien désiré, etc., etc. Mais j'avais vu le président. On a eu une conversation assez marrante. Et là, la chance. Vous voyez, je vous parlais de la chance. Il se trouve que je venais de commencer à travailler chez Plomb. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le catalogue. Et j'ai fait connaissance avec les archives de Plomb. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les archives de Plomb? Il y avait deux choses qui m'ont passionnée. Il y avait les deux premiers livres que Marguerite Duras n'avait jamais voulu refaire publier, tellement ils étaient mauvais. Et j'étais passionnée déjà de Marguerite Duras. Et il y avait un livre qu'un certain ex-secrétaire du Parti Socialiste n'avait jamais voulu faire republier, qui s'appelait « Le coup d'État permanent ». Un certain François Mitterrand. Voilà. Et donc, évidemment, ces livres dont les auteurs avaient verrouillé la possibilité de republication, c'est les premiers ouvrages que j'ai relus. Donc, le jour où je me suis retrouvée, par hasard, dans le bureau du président, il me dit, mais pourquoi ça vous intéresse tellement ce que vous faites? Je lui dis, ben, je vais vous expliquer pourquoi. Le coup d'État permanent, d'ailleurs, monsieur le président, pourquoi vous voulez pas le republier? Alors, il me regarde et il me dit, ah, bah écoutez, faut en discuter. Si je peux faire une préface pour expliquer dans quelles conditions j'ai écrit le coup d'État permanent, etc. Et du coup, il a republié. Mais si vous voulez, un lien autre que technico-administratif s'était noué. Et puis un jour, ma dernière fille, Paloma, venait de naître. J'étais à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Je sais pas, ça devait être peut-être un an après, un an et demi après. Moi, j'étais dans une chambre collective, donc il n'y avait pas de téléphone, ni blanc ni noir, à l'intérieur de la chambre où j'étais. Et une infirmière affolée est arrivée en disant « Le président de la République veut vous parler ». C'était François Mitterrand. François Mitterrand au téléphone qui me dit « Bonjour, je voudrais que vous deveniez ma conseillère culturelle dès cet après-midi ». Mais je lui dis, mais je suis à l'hôpital. Comment vous êtes à l'hôpital, etc. Alors j'ai dit, non, je ne peux pas. Oui, mais quand vous sortirez de l'hôpital, c'est dans combien de temps, etc., etc. Mais vous savez, il y a une crèche à l'Élysée. Donc, votre petite fille, elle peut venir à la crèche. J'ai fini par dire oui. Et je suis arrivée un jour, très vite, donc, après être sortie de l'hôpital. J'ai eu un télégramme de condoléances à faire. Parce que le conseiller culturel sert aussi à ça, à rédiger les télégrammes de condoléances. Donc je me suis retrouvée dans le bureau de François Mitterrand très vite, une demi-heure après y être arrivée, en poste. Il a demandé à me voir et la première chose qu'il m'a demandé, c'est les dates de naissance de mes enfants, Guillaume, Léa et Paloma. Et à chaque fois que c'était leur anniversaire, il les appelait pour leur souhaiter bon anniversaire. Donc voilà, Mitterrand, c'était ça aussi, parce que quand on travaillait avec lui, il s'occupait aussi de la famille. Voilà, et j'ai commencé comme ça.
Mais vous dites, Laure Adler, qu'un conseiller culturel, ça sert aussi à ça. C'est quoi être conseiller culturel d'un président? En l'occurrence, votre travail a consisté en quoi?
C'est la question que je lui ai posée. Et donc, il m'a répondu, après avoir visé ce télégramme de condoléances, puisque moi, j'ignorais tout, des codes, des règles, y compris des codes vestimentaires. Moi, à l'époque, je m'habillais en jupe très, très courte avec une grande cape par-dessus. Et la directrice du service de presse, dès qu'elle m'a vue le premier jour, elle m'a dit « faut prendre des costumes et s'habiller en costume ». Ben, j'ai dit « non, moi, j'en ai pas, donc je vais pas en acheter. Ah, ça serait mieux quand même ». Mais en fait, on faisait ce qu'on voulait. Hein. Il suffisait d'être comme on est dans la vie.
Vous avez continué à porter une mini-jupe ?
J'ai continué à porter une mini-jupe et personne ne m'a jamais fait de remarque, sauf que certaines filles se sont enfin permis de mettre des mini-jupes alors qu'elles n'osaient pas. Mais
le président, je lui ai dit,
après cette histoire de télégramme de condoléances, ça veut dire quoi ? Et il m'a répondu, ça veut dire être au courant de tout ce qui se passe dans le domaine de la culture et des grands travaux, avant tout le monde.
Et parce qu'il avait lancé une politique des grands travaux dans ce domaine.
Moi, je suis arrivée dans une période absolument extraordinaire, puisque c'était l'hypothèse déjà validée de la construction de la Bibliothèque nationale de France, la politique des grands travaux, etc., etc.
La Maison Dieu, l'Académie universelle des cultures, ouais. L'Opéra Bastille.
Oui, oui. Et donc, alors je lui dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire être agent secret? Il m'a dit oui, en quelque sorte. En tout cas, que je ne sois pas averti après tout le monde. Je lui dis, mais je comprends pas. Vous voulez dire qu'il y a des décisions qui sont prises sans que vous n'en soyez averti? Il me dit oui, beaucoup. Et moi, je vais être averti de toutes les décisions et pas paraffé après tout le monde. Donc voilà, c'était très intéressant parce que ça voulait dire n'être personne pour être avec le président et essayer d'avoir le plus d'informations possibles dans tous les domaines de la culture et des grands travaux pour transmettre au président tout ce que je récoltais comme information pour qu'il puisse agir en temps et en heure avant qu'il ne soit trop tard et avant qu'il ne signe des choses qu'il n'avait pas véritablement décidées.
Qu'est-ce que vous avez gardé de ces années-là ?
Bien écoutez, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Encore une fois, vous allez trouver que je suis un peu gaga, mais je le répète, hein, le sens du collectif, l'équipe. Il y avait des conseillers qui sont tous devenus ministres, hein, à peu près, dans l'équipe que nous constituions auprès du président. Vraiment, moi j'étais la saltimbanque de la bande, hein. Je savais rien, je savais pas parler, j'avais pas fait l'ENA, je connaissais pas le langage administratif, je savais pas ce que ça voulait dire faire un budget. Donc, comme j'avais travaillé sur Françoise Giroud et que j'avais bien connu Françoise Giroud, eh ben, je lui ai demandé des conseils. Elle m'a dit, bah, écoutez, il faut apprendre à toute vitesse. Donc, j'ai pris des cours du soir, sans le dire à mes petits camarades, dans les différents domaines. Et puis, j'ai essayé de pas être sous l'eau. Parce que de toutes les façons, on est sous l'eau quand on est conseiller.
Il y a toujours quelque chose.
Ah,
toujours.
Toutes les 10 minutes, il y a un dossier qui arrive, une décision qu'il faut faire prendre au président, ou il faut en parler au secrétaire général, ou au secrétaire général adjoint. Il faut la transmettre, il faut l'analyser, il faut la décrypter. Il faut parler au président sans l'importuner, mais en même temps, il faut savoir lui parler. Parce que je me souviens notamment d'un épisode pendant la guerre du Golfe, où le président était déjà malade, très affaibli, mais ayant toute sa tête. Et le secrétaire général nous avait dit « N'importunez pas le président quand vous avez des postes périphériques ». Moi, j'étais dans le périphérique, évidemment, avec la culture. Donc, je ne l'ai pas importuné. Eh bien, écoutez, au bout de 24 heures, il m'a convoqué, il me dit « Vous êtes en vacances ou quoi ?» Il fallait avoir un sens de la synthèse. Il fallait savoir construire une décision. Fallait savoir transmettre des informations, y compris des informations qui pouvaient être quelquefois extrêmement complexes à délivrer, notamment dans le domaine des grands travaux, parce qu'il y avait des enjeux d'argent, de pouvoir, de grandes sociétés concurrentielles, etc., etc. Fallait être une tombe, fallait savoir faire la morte, et en même temps, être toujours en vigie et toujours en alerte pour le président.
Ça vous a plu ?
Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, au bout de quelques temps, comme je ne voulais pas et je ne souhaitais pas faire de politique, j'ai demandé au président si je pouvais repartir vers le journalisme qui me manquait énormément.
Tout en lui proposant des rendez-vous hebdomadaires à François Mitterrand pendant un an. Rendez-vous hebdomadaire au cours desquels il a accepté de vous raconter ce qu'il faisait. Et ça a donné lieu à un livre, L'année des adieux, en 1995. Mais de toute façon, vous avez consacré, Laure Adler, 2 livres à François Mitterrand. Sur lui et ce livre-là.
Et je voulais vous dire, j'ai eu la chance de pouvoir participer à l'hommage à Robert Badinter. Je voulais dire que pendant ces années à l'Élysée, avec tous mes camarades, nous avons formé un collectif dans tous les domaines. Et d'autre part, nous préparions en amont le Conseil des ministres. Et donc, c'était une véritable université dans tous les domaines, que ça soit la politique extérieure, les relations internationales, l'économie. On a vécu la construction de l'Europe, Maastricht. Enfin, je m'y suis fait des amis que j'ai tous revus. J'ai rencontré des gens avec qui je me suis liée personnellement parce que j'avais la chance de travailler avec Mitterrand. Donc j'ai créé des liens. Donc j'ai pu avoir un lien personnel avec Robert Badinter. Et ce lien a été indestructible et très très important pour moi et avec d'autres personnes. Et à la cérémonie d'hommage de Badinter, qui était extrêmement émouvante, où Emmanuel Macron a prononcé un discours absolument remarquable qui nous a tous bouleversés, j'ai rencontré tous mes amis. Ils étaient tous là. Alors, on se voit de temps en temps tout au long de l'année, et notamment le jour de la mort de François Mitterrand, puisque François Mitterrand nous avait demandé à 3 personnes de l'Élysée, dont je suis, de respecter un rite et d'aller bien bouffer le jour de sa mort. Donc ce rite continue, on est tous liés, et quand on s'est tous retrouvés là, je sais pas ce qui s'est passé entre nous, mais cette expérience a été inoubliable.
Est-ce que c'est une expérience qui vous a préparé au poste de pouvoir que vous avez eu par la suite? Je pense notamment à la direction des documentaires et des émissions culturelles sur France 2 et au poste de conseillère de présidence de France Télévisions que vous avez occupé en 1992 et bien entendu à celui que vous avez occupé un peu plus tard à partir de 1999 comme directrice de France Culture, un autre collectif, celui-là.
Non, pas du tout. Parce que par définition, les conseillers n'ont aucun pouvoir, si ce n'est celui de transmettre. Point barre.
Vous n'y étiez pas préparée et vous ne vous y attendiez pas non plus.
Pas du tout.
À devenir directrice de France Culture. Dans quelles circonstances cela s'est-il fait?
C'est le PDG de l'époque qui venait d'arriver à la présidence de Radio France, Jean-Marie Cavada, que je ne connaissais pas. Je l'avais rencontré au cours d'un déjeuner quelques années auparavant qui avait été très émouvant. Parce qu'à l'époque, il dirigeait France O, qui est une chaîne de télévision qui n'existe plus, mais à l'intérieur de laquelle j'ai énormément travaillé pendant des décennies pour transmettre la culture francophone à laquelle je tiens beaucoup, et notamment tous les écrivains francophones. Et quand il m'a appelé au téléphone, c'était le tout début des portables, pour me dire qu'il voulait absolument déjeuner avec moi, je lui ai dit d'une part que j'étais pas libre. Il m'a dit oui, mais il va falloir que vous veniez déjeuner avec moi parce que c'est très important. Et pendant le déjeuner, il m'a dit, je voudrais que vous soyez directrice de France Culture. Et il paraît, c'est lui qui me l'a dit, il paraît que je me suis mise à pleurer. Et il m'a dit, pourquoi vous pleurez? Je m'étais même pas rendu compte que je pleurais. Je lui ai dit, mais parce que ce que vous êtes en train de proposer, vous l'avez proposé aussi à mon mari. Donc je comprends pas, on peut pas être 2 directeurs de France Culture en même temps. Et il m'a répondu cette phrase que j'ai gardée gravée à l'intérieur de ma mémoire et qui m'a permis de situer les choses à leur place. Il m'a dit, à ce que je sache, votre mari n'est pas une femme. Donc il voulait une femme. Il voulait pas quelqu'un qui avait une expérience ou qui ceci, qui cela. Non, il voulait une femme. Et la femme, c'était moi. Et quand je suis rentrée à la maison, Alain m'a dit, on va discuter. On a discuté pendant très longtemps, toute la nuit. Il m'a dit, si c'est pas toi, ça sera pas moi non plus. Si c'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Donc je préfère que ça soit toi, à condition qu'on parle jamais de radio. Et donc le lendemain, j'ai dit à Cavada, allons-y.
Et vous n'avez jamais parlé, plus jamais parlé de radio avec Alain Weinstein?
Non. Plus jamais.
Même au cours de ces 6 années de direction
jamais.
De la chaîne?
Non, quand on s'engage, on s'engage. C'était très bien de ne pas avoir à parler de radio et de penser à autre chose et de penser à notre relation d'amour et à notre relation de confiance et d'être en dehors de la radio. C'était très bien. Ils ne savaient pas à quel point c'était bien.
S'en sont suivies, Laura Adler, 6 années donc, 6 années... Au moment de votre départ en 2005, vous avez dit « J'ai vécu ici 6 années de bonheur, d'exaltation, de dépassement de nous-mêmes. » Mais depuis, vous avez aussi pas mal insisté sur la violence que vous avez subie aussi au cours de ces 6 années. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, il reste de ces années-là?
La conscience d'avoir subi beaucoup de violences sexistes, d'avoir beaucoup pleuré dans le sas qui était le moment où je sortais de la maison de la radio chaque soir très tard et le moment où je rentrais à la maison et où je pleurais. Je me disais jamais je m'en sortirai. Je voulais pas que ni mon compagnon ni le père de mes enfants ne me voient en pleurs quand j'arrivais. Donc je reprenais des forces à l'intérieur de l'habitacle qui était cette voiture pour repartir à la maison comme si de rien n'était et repartir le lendemain comme si de rien n'était. On serait aujourd'hui, d'abord la violence, heureusement, a beaucoup baissé à la maison de la radio. Heureusement, nous avons une PDGère, je sais pas comment on dit, en tout cas, une femme qui est l'honneur de notre profession, une femme qui est responsable de la maison de la radio. Nous avons des femmes partout en exercice de responsabilité, mais moi, j'étais la seule femme à exercer des responsabilités à cette époque-là.
C'était plus dur qu'en politique ?
Beaucoup plus. Beaucoup plus violent. Beaucoup plus bas. Beaucoup plus humiliant. Moi, j'avais ma caricature dans les couloirs de la maison de la radio et devant la cantine. On me caricaturait avec alors une mini-jupe qui allait au ras des fesses et des talons de 18 cm de haut. Et bah, j'ai essayé de batailler tant que j'ai pu, jusqu'au moment où je me suis dit une chose. Je me suis dit, ils veulent que je parte, et ben, je partirai pas au moment où ils le veulent. Je partirai plus tard, mais je me battrai. Et d'autre part, j'ai eu une solidarité de la part de mon équipe de direction. J'ai eu une solidarité de la part des équipes de France Culture. Et petit à petit, la solidarité s'est agrandie jusqu'aux filles et aux femmes qui travaillaient à la maison de la radio. Et un jour, je suis arrivée à la maison de la radio et dans le hall, on m'a dit, il faut que tu ailles dans le plus grand studio. Je dis, non, j'ai des rendez-vous à mon bureau au 6e étage. Il faut que tu ailles au plus grand studio. Et là, il y avait des salariés de la maison de la radio qui ont décidé de me soutenir et que cette violence sexiste allait s'arrêter. Et progressivement, ça s'est arrêté.
Est-ce que vous diriez en retour, Laure Adler, que vous-même avez fait preuve de violence envers les collaborateurs, les collaboratrices de la chaîne? Vous savez, la phrase qui a circulé après votre départ, ça a été « Laure Adler, elle a fait beaucoup de bien à la chaîne en changeant énormément de choses, en insufflant une grande modernité, en renouvelant beaucoup de choses, mais beaucoup de mal aux gens. »
Peut-être. Si jamais j'ai fait du mal à des personnes qui m'écoutent, je m'en excuse. Quelquefois, on fait du mal et on blesse des gens sans le savoir. Donc, c'est possible. J'ai fait des erreurs et j'ai commis des maladresses. Par exemple, c'est des choses toutes bêtes. Donc, je les ai apprises au fur et à mesure, puisque j'avais jamais dirigé d'équipe. C'est pas pour me disculper. Encore une fois, j'espère que je n'ai pas trop blessé de personnes. Par exemple, je fermais ma porte. Je pensais qu'il était nécessaire de fermer la porte. Il fallait pas la fermer. Et j'ai compris ça. Et c'était effectivement, c'est un truc tout simple. Il faut toujours laisser la porte ouverte. Et si jamais, et il s'est passé beaucoup de choses durant ces années-là, il faut que vous soyez là en permanence pour pouvoir aider les gens, pouvoir échanger avec les gens, pouvoir écouter les gens. Vous êtes dans une situation de direction, donc d'écoute. Maximale, en plus, c'est la radio. Ensuite, il a fallu choisir une nouvelle génération de producteurs. Pour dégager des places, par définition, il fallait demander à des gens qui avaient atteint un âge certain de pouvoir partir ou de pouvoir songer à partir. Et je comprends qu'aujourd'hui, c'était une grande violence pour eux. Parce que je le comprends mieux parce que, à l'époque, j'avais la force d'une illusion de la jeunesse. Aujourd'hui, au moment où j'en ai 73, je me dis, c'est pour ça aussi qu'il a fallu, j'avais un pacte avec moi-même, il fallait que je m'arrache à ma passion de la radio, mais pour pouvoir aussi conserver ce pacte avec moi-même. Parce que j'ai dit à des gens qui avaient plus de 75 ans, parce qu'à l'époque, on pouvait travailler à la radio au-delà de 80, je leur ai dit, songez à partir, songez aux jeunes générations. Il y a des producteurs qui ont pleuré dans mon bureau. Et moi, j'avais honte. Et je me disais, je les ai pris dans mes bras. J'ai dit, et je suis qui pour leur dire ça? Et en même temps, j'avais une autre vision. Je me disais, comment je vais trouver les places pour les jeunes générations, etc., etc. C'est un arrachement. Parce que faire de la radio, c'est pas seulement un métier, c'est une vocation, c'est une passion. C'est un être au monde, c'est une manière de vivre. Et donc, j'ai dû blesser aussi beaucoup des gens pour assurer aux nouvelles générations de pouvoir prendre le pouvoir. Et tout ça a été très violent. Et effectivement, à plusieurs reprises, j'en ai parlé à mes deux PDG, trois PDG qui m'ont toujours soutenue. Je leur ai dit, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On met sur pause? Et ils me disaient, continuez. Donc, je me sentais dans un élan. Peut-être j'ai été trop présomptueuse, hein. C'est possible, c'est possible.
En 2016, pour terminer cette émission sur les responsabilités et le pouvoir, vous avez décliné la proposition de François Hollande qui vous proposait de devenir ministre de la Culture, Laure Adler. Est-ce que c'est parce que, au fond, l'expérience de pouvoir ne vous a pas complètement conquise ?
Bah écoutez, on était dans une période très particulière, vous vous rendez compte, ça voulait dire qu'il pensait que peut-être il allait se représenter au présidentiel. Resituons-nous dans cette perspective-là, il pensait pas que Emmanuel Macron allait se présenter, il était dans une continuité, mais il n'empêche que il y avait un sas de temps et que avant l'échéance de ce premier mandat qui sera l'unique pour François Hollande, il y avait une perspective d'un temps court pour l'équipe gouvernementale qui voulait changer. Et ce temps court était occupé déjà par des dissensions internes à l'intérieur de son propre gouvernement, avec l'hypothèse Macron qui n'était qu'une hypothèse, mais qui s'est solidifiée au fil du temps. Et donc, la question était simple. C'était, qu'est-ce que vous voulez en changeant de ministre de la Culture. D'autre part, cette ministre de la Culture qui occupait ce poste, moi, je l'aimais bien. Et j'aime pas remplacer des gens que j'aime bien. Parce que s'ils sont bien, pourquoi irais-je les remplacer en leur faisant du mal?
C'était qui à l'époque?
Fleur Pellerin. Et elle faisait très bien son boulot. Et donc, pourquoi voulait-il changer de ministre de la Culture? Et il m'a été répondu parce qu'il veut engager le monde intellectuel pour son deuxième mandat. Alors là, j'ai dit, alors là, au moins, c'est clair. Mais il y a une seule personne qui peut le faire, c'est Christiane Taubira. Et il m'a été répondu, Christiane Taubira, on est en train d'essayer de la convaincre. Et j'ai répondu, c'est elle qui devrait être ministre de la Culture. Voilà.
Merci, Laure Adler. On se retrouve pour l'épisode 4. À suivre l'épisode 4, la scène de théâtre et l'atelier de création. À demain. C'était À Voix Nue avec Laure Adler, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil, réalisation Manouchak Fachaï, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.